Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une première mission, pas des plus faciles pour le nouveau ministre de la Transition écologique. François de Rugy est allé dans les Pyrénées annoncer la réintroduction de deux ours en sachant qu'il n'allait pas faire que des heureux. Le geste du gouvernement pour les retraités, 300 000 foyers seront exonérés de la hausse de la CSG. C'est Édouard Philippe qui l'a annoncé sur notre antenne ce matin. Nous verrons à qui précisément s'adresse cette mesure. L'affaire Benalla, c'est aussi l'affaire du couple qui a été molesté par le chargé de mission auprès d'Emmanuel Macron. Un couple à nouveau entendu par la justice aujourd'hui. Ou hier, pardon. La justice qui demande à Marine Le Pen un examen psychiatrique, c'est une obligation légale. Mais nous verrons que la présidente du Rassemblement National s'en sert pour faire parler d'elle. Facebook qui ne respecte pas ses engagements et c'est Bruxelles qui s'agace. Nous entendrons la commissaire à la consommation demander aux géants américains de se conformer aux décisions sur la protection des données. Et puis dans ce journal, nous vous raconterons l'ambiance d'un match de niveau européen mais sans aucun spectateur. L'OM qui jouait à domicile et à huis clos et qui a perdu ce soir face à Francfort 2-1. Bienvenue dans le 23h d'Inter. Il a tenu à se confronter au terrain, François de Rugy, le nouveau ministre de la Transition écologique, qui a préféré donc la rencontre des élus sur le terrain que signer un arrêté, dit-il, dans son bureau. Mais la rencontre, eh bien, elle n'était pas gagnée d'avance. François de Rugy était aujourd'hui à Pau pour annoncer la réintroduction de deux ours femelles dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais ce genre d'annonce, ça ne fait pas plaisir à tout le monde dans la région. Stéphane Iglesis.
La main de François de Rugy n'a pas tremblé. Le nouveau ministre de l'Environnement reconnaît que le dossier ours divise en Béarn, mais il estime que les concertations ont eu lieu et que s'il fallait attendre que tout le monde soit d'accord, on ne ferait jamais rien. François de Rugy.
J'ai décidé de passer à l'action. Je connais les difficultés, les tensions, et donc je ne me dérobe pas. Nous considérons que la population d'ours dans les Pyrénées sera viable une fois cette réintroduction faite et si évidemment elle marche.
Une fois la réintroduction annoncée, 11 maires et un député PS ont claqué la porte de la réunion de concertation. Pour David Habib, député PS, le nouveau ministre de l'Environnement a voulu faire un coup politique.
Ils veulent démontrer que François de Rugy est capable d'aller plus loin que Nicolas Hulot. Ils veulent démontrer que Nicolas Hulot a eu tort de quitter le gouvernement et que La République En Marche, c'est les Verts plus. C'est un décalage profond entre le 7e arrondissement de Paris, incarné par le ministre et ses collaborateurs, et un territoire qui est fort de ses convictions.
Quant à Denis Fourcade, éleveur de brebis à Lourdios-Tichère, il ne comprend pas cette décision qui va rendre la vie plus difficile aux éleveurs.
Et autrefois, pour faire le même travail que moi je fais tout seul, ils étaient 3 ou 4 sur les fermes, et à l'heure actuelle, on est tout seul, dont une conjointe qui travaille à l'extérieur, parce qu'économiquement, c'est compliqué. C'est ça qui me fait peur. Alors, c'est pas le fait de garder les brebis, vous pourriez y être jour et nuit, un jour ou l'autre vous vous faites avoir et vous faites attaquer. Il peut y avoir 4-5 patous, les brebis se font attaquer, malgré ça.
Reste désormais à capturer les deux ours femelles slovènes qui seront réintroduites en toute discrétion d'ici début octobre. Pau, Stéphanie Iglesis, France Inter.
Arrêtez donc d'emmerder les Français, avait lancé Georges Pompidou en 1966. Arrêtez d'emmerder les retraités, l'a plus ou moins copié Emmanuel Macron il y a 2 jours. Le président qui a décidé de choyer nos aînés, son premier ministre Édouard Philippe était ce matin sur France Inter pour annoncer un geste fiscal à leur attention. Près de 300 000 foyers seront exonérés de l'augmentation de la CSG entrée en vigueur cette année. Initialement, il ne devait y avoir que 100 000 foyers, 200 000 de plus, donc un effort. Mais pour quels retraités, Hélène Filly?
Il y a d'abord la cible prioritaire, c'est 100 000 foyers qui ne doivent pas subir la hausse de la CSG pour le gouvernement. Ce sont les retraités les plus proches du seuil. Les seuils, hein, ce sont 14 400 euros pour une personne seule, 1 200 euros par mois, 22 000 pour un couple, 1 800 euros par mois. Ces seuils, hein, c'est le revenu fiscal de référence, ne vont pas bouger. Ce sont les retraités qui font des allers-retours juste en dessous, juste au-dessus de cette limite. Ceux-là, il n'y a pas de doute, seront épargnés. Leur variation de revenu est infime. Ce sont des revenus d'épargne, des revenus locatifs qui tombent ponctuellement, par exemple, et qui les font passer en dessous ou au-dessus du seuil. Et puis, il y a 200 000 autres foyers fiscaux qui vont dépasser le seuil, sans doute de manière un peu plus durable. Pour en être sûr, le gouvernement va les garder en observation, les exempter la première année, réexaminer leur cas la deuxième, avant de les faire basculer dans le taux normal en 2020. En gros, c'est un sursis à défaut d'échapper durablement à la hausse. En tout cas, Matignon l'affirme, c'est tout de même entre 300 000 et 350 000 foyers fiscaux fiscaux qui seront épargnés en 2019. On saura combien de retraités exactement dans l'étude d'impact qui sera présentée dans le PLFSS. Et ça représente un effort de 350 millions d'euros pour les finances publiques.
Hélène Filly et le PLFSS, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Une convocation normale qui fait partie de la procédure. Mais quand c'est Marine Le Pen qui la reçoit, eh bien cette convocation est, je cite, « proprement hallucinante ». La justice a en effet ordonné à la présidente du Rassemblement National un examen psychiatrique dans le cadre de sa mise en examen pour avoir tweeté des photos d'exactions de Daesh. Il s'agit pour la justice de s'assurer qu'elle comprend les propos et est en mesure d'y répondre. Encore une fois, c'est la procédure habituelle. Mais Marine Le Pen s'en est vivement émue sur Twitter, estimant que, je cite, ce régime commence vraiment à faire peur. Une nouvelle occasion en tout cas pour elle, Maxence Lambrecq, de se poser en victime.
Elle aurait pu n'en parler à personne, garder ça pour elle, mais non, à un matin où l'actualité politique faiblit, elle publie cette convocation reçue la semaine dernière. Pourquoi ? Pour faire parler d'elle, et à chaque fois qu'elle se victimise, elle semble se maintenir dans les sondages. C'est une mécanique qu'utilisait aussi son père. Elle ne se rend pas compte que cela abîme encore un peu plus son image, me confie un de ses élus. Ou pire, elle s'en moque complètement. La patronne du RN ne se rendra évidemment pas à cette expertise psychiatrique, mais à l'Assemblée, salle des quatre colonnes, elle lui donne un caractère dramatique.
Je note que dans les régimes totalitaires, c'est une des méthodes qui est utilisée contre les opposants, les faire passer pour des fous. Quand on est en désaccord avec le système, on ne peut être que malade mental. Je commence à trouver ce régime un peu inquiétant.
Ça n'a rien de politique, c'est une procédure classique, répond le parquet de Nanterre. À chaque fois que quelqu'un est mis en examen pour diffusion de messages violents susceptibles d'être vus par un mineur, alors le code de procédure pénale impose cet examen psychiatrique. L'ex-avocate Marine Le Pen le sait très bien, elle remet donc en cause le chef d'inculpation lui-même et s'offre avec cet épisode un coup de com' dans toute l'Europe. À Londres, la BBC en parle et depuis Rome, Matteo Salvini lui a témoigné son soutien.
Et par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, plutôt surprenant, a annoncé, a porté son soutien à Marine Le Pen. Le leader de la France Insoumise dénonce une psychiatrisation du dossier. Et voilà, la loi est la même donc pour tout le monde. Une deuxième trace d'ADN féminin retrouvée au domicile de Jean-Marc Reiser à Schiltigheim, c'est dans le Bas-Rhin. Il est le principal suspect dans la disparition de Sophie Le Tan, la jeune étudiante disparue le 7 septembre dernier, et dont des traces ont été retrouvées chez cet homme âgé de 58 ans. Pour l'instant, rien ne permet en tout cas de dire à qui appartiennent les deuxièmes traces d'ADN découvertes. L'Office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP, va tenter de faire un lien entre cette nouvelle découverte et des disparitions d'étudiantes jusque-là inexpliquées. Hier matin, en tout, près de 750 000 téléspectateurs ont suivi l'audition d'Alexandre Benalla devant la commission d'enquête sénatoriale. Un chiffre important qui atteint des records pour certaines chaînes à cette heure-là de la journée, pour BFM, CNews ou Public Sénat. Puis, plus discrètement, ce sont d'autres protagonistes de l'affaire qui ont été entendus. Pas par la justice cette fois, mais le couple molesté par Alexandre Benalla et Vincent Crase, ce 1er mai, place de la Contrescarpe à Paris. Scène vue et revue sur toutes les vidéos révélées. Deux jeunes gens entendus par trois juges parisiens, c'était hier. Leur avocat a rencontré l'audition à Sophie Parmentier.
Cette audition dans le bureau des juges a duré 4 heures pour le jeune homme, prénommé Georgios, un cuisinier de 29 ans. Sa compagne, Chloé, 30 ans, graphiste, a ensuite été entendue durant 3 heures. Et tous deux ont expliqué au magistrat qu'ils voulaient juste fêter leurs 6 ans d'histoire d'amour en allant boire un verre et manger une crêpe ce soir du 1er mai, quand ils se seraient retrouvés au cœur de la manifestation, à un moment où elle a dégénéré, raconte leur avocat, Maître Saand Saber. Il est au micro de Marie Bernardo.
Ils ont connu avoir jeté des projectiles en réaction à une charge de CRS qui les a laissés dans l'incompréhension. Ils ont manifesté leurs regrets, ils ont présenté leurs excuses, ils ont qualifié leur geste de bête, de stupide, de sanguin et aujourd'hui encore, ils disent en avoir honte. Ils reconnaissent finalement qu'ils auraient dû quitter les lieux lorsqu'ils ont vu la manifestation plutôt que de rester comme des spectateurs, comme des observateurs, voir ce qui allait se produire. Ils n'avaient en fait pas vraiment conscience de ce que une situation, une manifestation peut donner lieu.
Devant les juges hier, le jeune couple a juré qu'ils n'étaient pas des black blocs, pas des casseurs. Et hier, c'est uniquement en tant que partie civile qu'ils ont été entendus. Mais une autre enquête est aussi ouverte contre eux pour violence contre les forces de l'ordre ce 1er mai.
Sophie Parmentier, une nouvelle victoire à Strasbourg pour les opposants au GCO, le grand contournement ouest. Le tribunal administratif a suspendu l'arrêté qui autorisait la coupe d'arbres nécessaires aux travaux. L'abattage de 30 de ces arbres dans le secteur de Pfulgriesheim avait été autorisé par un arrêté du
du préfet le 24 août dernier. Deux autres recours déposés par les opposants sont en attente, dont un qui concerne directement l'autorisation du chantier de GCO. Apple a décidé de retirer l'application sur ses tablettes et smartphones d'Alain Soral. Égalité et réconciliation, Alain Soral condamné à plusieurs reprises pour provocation à la haine raciale. L'Union des étudiants juifs de France se félicite de la décision du groupe américain, mais regrette que Google n'en fasse pas de même pour ses smartphones.
Le journal de 23h sur France Inter.
Le coup de colère de la commissaire à la consommation Vera Jourova. Elle s'impatiente face à Facebook et lui demande de se conformer rapidement aux règles de protection des données d'ici même la fin de l'année. Sinon, eh bien Facebook pourrait faire l'objet de sanctions. Vera Jourova.
Nous voulons que Facebook soit absolument clair envers ses utilisateurs sur la façon dont leur service fonctionne et rapporte de l'argent. Facebook a près de 380 millions d'utilisateurs en Europe et j'attends de Facebook qu'ils prennent plus leurs responsabilités vis-à-vis d'eux. Je ne suis pas naïve au point d'imaginer que tous liront leur contrat, mais je m'attends à ce que beaucoup le fassent et j'attends de Facebook qu'ils soient honnêtes avec ceux qui tentent de comprendre toutes les conséquences de l'utilisation de leurs services. Je ne vous cacherai pas que je deviens plutôt impatiente, car nous dialoguons depuis bientôt 2 ans et je veux vraiment voir non pas des progrès, ce n'est pas assez pour moi, mais des résultats. Si nous ne voyons pas de progrès, des sanctions devront arriver, c'est très clair. Et pour Facebook aussi, car j'ai dit clairement que nous ne pourrons négocier éternellement.
La commissaire européenne à la consommation Vera Jourova avec Pierre Benazé à Bruxelles. L'Europe, 27 pays d'un côté et le Royaume-Uni de l'autre. Le Brexit, Theresa May, la première ministre britannique, a assuré qu'elle présenterait sous peu une nouvelle proposition sur la question de la frontière irlandaise. Un sujet délicat autour de la sortie du Royaume-Uni de l'Union. Lors du sommet des 28 à Salzbourg, Donald Tusk a de son côté critiqué l'une des propositions du gouvernement britannique, celle autour des relations économiques après Brexit. Tel qu'il est proposé, le cadre de coopération économique après les fondements du marché intérieur de l'Union, a estimé le président du Conseil européen. La reconstruction du pont Morandi à Gênes, le gouvernement italien va exiger par décret qu'elle soit financée par la société qui gérait le pont, Autostrade per l'Italia. Elle a également 1 mois pour avancer les fonds nécessaires au rétablissement du trafic automobile. 43 personnes ont péri dans l'effondrement du pont le 14 août dernier. Une entrée en lice mitigée pour les Français en Ligue Europa, cette petite ligue des champions pour des clubs moins bien classés, on l'appelle la C3 également. 2 défaites et 1 victoire, celle de Rennes qui a battu les Tchèques de Jablonec 2-1, Bordeaux a été battu par le Slavia Prague 1-0. Et le match un peu phare de cette soirée, c'était celui de l'OM face à Francfort, à domicile, mais à huis clos. Décision de l'UEFA après les perturbations des supporters marseillais lors de la dernière saison européenne. Défaite donc 2-1 de l'OM dans une ambiance non pas surchauffé, mais plutôt surréaliste. Stéphane Burgat.
Sans son public, sans son 12e homme, l'OM, pourtant supériorité numérique, s'incline à domicile au terme d'un match particulier. Quel paradoxe ce stade, et qui plus est le Vélodrome, réduit au silence. Plus de vie, plus de bruit, plus de tumulte. Ni chant, ni banderole, mais les cris des joueurs et le bruit des crampons qui frappent la balle. Même les mythiques notes de synthétiseur de Van Halen ne retentissent pas pour accompagner l'entrée des joueurs. Il manque quelque chose, et moins l'impression au final d'assister à un match de Coupe d'Europe qu'à une opposition d'entraînement. Un handicap, a déclaré cette semaine Rudy Garcia, le coach olympien. L'OM qui reste sanctionné. Ses 2 prochains matchs européens seront à huis clos partiel, cette fois avec la fermeture des seuls virages. Marseille, Stéphane Burgat, France Inter.
Allez, je vous laisse avec cette jolie histoire survenue cet été, mais qui nous parvient seulement aujourd'hui. À Paris, un petit garçon de 5 ans, visiblement très débrouillard, a composé le 6 juillet dernier, pour appeler donc les pompiers. « Allô, ma maman vient de tomber parce qu'elle ne se sent pas bien », a immédiatement dit l'enfant lorsqu'un pompier a décroché. Il a pu donner son adresse et même des précisions sur l'état de santé de sa mère. Les secours ont finalement pu agir à temps, la maman de 26 ans a pu être sauvée, et les pompiers ont décidé de mettre en ligne aujourd'hui l'enregistrement de l'appel. Vous pouvez l'entendre sur le compte Twitter des pompiers de Paris. Allez, à 23h14, un coup d'œil dans le ciel.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Et c'est avec Sébastien Léas.
Le vent va se renforcer cette nuit sur le nord-ouest, en particulier près de la Manche, avec des rafales pouvant dépasser les 100 km/h. Ce renforcement est lié au passage d'une perturbation pluvieuse. Cette perturbation va glisser sur le pays demain, s'étendant à la mi-journée des Charentes à la Champagne-Ardenne et gagnant ensuite jusqu'au Massif central et au quart nord-est demain après-midi. À l'arrière de la bande pluvieuse, dans de l'air plus frais, les éclaircies seront de retour par le nord-ouest et le risque d'averse sera faible. Au sud de la Garonne, les grisailles matinales seront nombreuses, mais des éclaircies se dessineront l'après-midi. Ce sera nettement mieux sur le quart sud-est, avec du soleil et de belles éclaircies toute la journée, avec tout de même quelques petites averses vers les Préalpes et le sud de la Corse. Les températures seront encore comprises entre 27 et 32 degrés en Alsace, en Occitanie, en Rhône-Alpes et autour de la Méditerranée. Mais ailleurs, la fraîcheur va s'installer avec 17 à 24 degrés.